Voilà, mes amis, on est rendu donc au 16e chapitre déjà, et on a déjà fait un petit bout la fois dernière, puisqu'on redémarre cette fois-ci au verset 6, avec la merveilleuse nouvelle que l'Europe est atteinte par l'Évangile. Vous vous rappelez qu'après la séparation d'avec Barnabas, avec l'espèce de divergence de vue, Paul s'est adjoint à Silas, et Paul et Silas entament une tournée des églises, en commençant par celle de... Donc j'étais juste en train de résumer un peu là où nous étions parvenus, en entamant le chapitre 16. Donc en rappelant que Paul s'était adjoint à Silas à Antioche, et qu'ils ont entamé une tournée dans les églises de Syrie et de Cilicie, apparemment avec le projet, puisqu'on le voit dans notre texte, de poursuivre vers les églises implantées en Asie mineure, ce qu'ils vont faire d'ailleurs, celle donc qui avait été implantée par Paul et Barnabas. Et puis voilà qu'arrivés à Lystre, ils s'adjoignent Timothée cette fois-ci. Donc on se rend compte, c'était aussi tout le débat. Tu étais là la fois passée ou pas ?
Non.
Donc voilà. Mais tu as entendu ou pas ?
Non.
Non. Ok, donc en fait, on s'est retrouvé un peu devant un os. Là, tout d'un coup, Paul, qui était contre la circoncision des païens, devient pour dans le cas de Timothée. Donc il fallait un peu jongler avec ça. Et voilà, donc ils partent tous les trois, et tout au long de leur itinéraire, eh bien, ils transmettent de manière très fidèle les directives de Jérusalem au sujet, justement, de la non-circoncision des païens. Voilà. Et donc maintenant, nous, on va attaquer cette partie des versets 6 à 15. Et si quelqu'un veut les lire, eh bien, ça nous fera un bon rappel.
Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne les laissa pas faire. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière. Passe en Macédoine, viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace. Puis, le lendemain, sur Néapolis, et de là, nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour gagner, le long d'une rivière, un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu, était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes. Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et elle nous a forcés d'accepter.
C'est gentiment dit.
Ouais.
Ok. Alors, c'est vrai qu'on est un peu inondé dans les premiers versets de lieux, de noms de lieux. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais dit, bah, peut-être ce serait bien de regarder sur une carte un peu de quoi il s'agit, parce que sinon ça, c'est un peu compliqué à suivre. On va d'abord s'attacher au verset 6, et je pense que ça peut correspondre aux deux premières questions globalement. bien que la troisième inclue 6 à 10, peu importe. Hein. Alors, que se passe-t-il en premier lieu ? Notamment dans ce verset 6.
Il s'est empêché d'annoncer la parole.
Mm-hmm. En Asie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui les empêche d'aller à certains endroits et qui les encourage.
Ok. Donc, par le chemin qu'ils ont pris, le chemin côtier, je rappelle, la route côtière pour monter vers le nord, ils sont obligés de passer par la Phrygie, ils n'en ont pas d'autre route que celle-là. C'est donc une province qui est située au centre de l'Asie mineure, si vous voulez, qu'on avait déjà entendu parler au chapitre 2, verset 10, lorsqu'on parlait de tous les gens réunis à la Pentecôte, et une des ethnies, c'était celle des Phrygiens. Et ensuite, après avoir traversé la Phrygie en montant un peu vers le nord, ils atteignent ce qui est appelé dans notre tome la région Galate. Alors, je ne sais pas quelles sont... Est-ce que c'est la Galatie dans les autres versions ?
Phrygienne.
Ok. On pourrait dire la Galatie du Sud, si vous voulez. Mais alors, le problème de la Galatie, c'est qu'il y a un endroit qui est la Galatie, et puis les Romains ont élargi ce nom à d'autres régions. Donc, on ne sait pas si on parle de la Galatie initiale ou si c'est toute la Galatie. Mais en tout cas... Les commentateurs pensent que c'est plutôt sur la route qui monte au nord et donc en longeant le sud de la Galatie. Pour la petite histoire, c'est pour le fun, hein, pourquoi ça s'appelle la Galatie ? Je dois dire que je ne le savais pas, hein, je ne vais pas faire le malin. Mais cette région s'appelle comme cela depuis que des tribus gauloises s'y sont installées. Donc, il faut savoir que les Gaulois, y compris les Belges, hein, qui font partie de ces peuples de la Gaule, les Gaulois étaient des grands voyageurs et avaient une culture celtique, en réalité, et se sont installés là au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est assez marrant de voir qu'il y avait déjà, à l'époque, hein, on ne l'imagine pas, mais des flux de population. Alors, étaient-elles acceptées ? Où n'y avait-il personne dans ce coin-là ? Puis ils se sont dit « Ah, c'est le bon endroit, on va s'arrêter là ». Non, c'est rigolo, mais on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on critique les déplacements de population, on empêche les déplacements de population. À l'époque, c'était monnaie courante, hein. Les gens voyageaient, et notamment à cause de... À partir des années 140 à peu près, à cause de l'Empire romain, il y avait encore plus de déplacements. Puisque dans l'armée romaine, tous les peuples étaient conviés à participer. Il y avait un brassage de population incroyable. Et puis, comme on le verra tout à l'heure, souvent c'était l'habitude pour les Romains de relâcher leurs soldats, leur dire « Bon, c'est OK, on vous reconnaît comme vétéran, vous avez bien servi, et vous avez droit à ce morceau de terrain-là, dans telle contrée, etc. » Voilà, ça marchait un petit peu de cette manière. Et puis, quel était le but ? En montant comme ça vers le nord, est-ce qu'on a discerné le but que suivait Paul ?
Faire d'autres régions.
Parce que si on dit que l'esprit. Voilà, exactement. Si on dit que l'esprit l'empêche, c'est qu'il y avait donc un projet.
Oui.
D'accord ? Bon. Donc ils sont empêchés d'aller annoncer la parole en Asie, dit le texte. Alors c'est compliqué parce que. La grande région qui correspond à la Turquie aujourd'hui s'appelle l'Asie mineure à l'époque. Mais dans l'Asie mineure, il y a des provinces, dont la Phrygie, patati patata. Et dans une partie tout à fait à l'ouest de la Turquie actuelle, il y avait une province romaine qui s'appelait l'Asie, très vaste. Et à l'intérieur de cette même province, il y a un petit coin qu'on appelait l'Asie. Et ça correspondait aux villes d'Éphèse, entre autres, qui était la capitale de cette région, la capitale de l'Asie, avec plusieurs villes florissantes, hein, dont Smyrne, par exemple, tout à fait à l'ouest du pays.
Oui, je vais aimer, là, parce que moi, je ne les vois pas.
Ah ben voilà, donc le problème de nos cartes, c'est que souvent... Mais si tu es tout à fait... Tu regardes la Turquie... Donc, en fait, c'est toute la région de ces grandes villes dont l'Apocalypse parle. Hein. Donc tu as Thyatire, Sardes, Philadelphie, Colosse, Laodicée, Milet, etc. Sont toutes des villes de cette petite province d'Asie.
Donc ça s'appelle l'Asie, ça.
Ouais.
Ça nous décoiffe, parce que
nous,
c'est loin.
Nous, ben oui, mais en fait, c'est parce que le continent, dès que tu passes le Bosphore, le détroit du Bosphore, tu es sur le continent asiatique. Mmh, mmh. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle ça s'appelait déjà l'Asie à l'époque? Why not? On ne sait pas trop. Mmh. Mais en tout cas, ils sont tout à fait... Enfin, le but, c'était d'aller tout à fait à l'ouest... vraisemblablement vers Éphèse, qui était une très très grande ville à l'époque et la capitale de ce coin-là. Et vous savez, vous rappelez que Paul aime bien attaquer là où ça fait mal. Donc aller plutôt dans les grandes villes, puis commencer par les Juifs, et puis étendre à toute la population au niveau de la prédication de l'Évangile. Donc c'est assez conforme à sa manière de faire. Mais étrangement... Le texte nous dit au verset 6 qu'il est empêché d'aller annoncer l'évangile de ce côté-là. Voilà. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles il va devoir pénétrer en Galatie. On doit en tout cas conclure de ce verset que vraisemblablement la Phrygie et la Galatie ont été évangélisés pour la première fois lors de ce voyage. Et donc, c'était deux régions qui n'avaient pas été touchées auparavant par le premier voyage qui s'était opéré par une autre route, si vous vous souvenez bien. Et donc, bizarrement, le Saint-Esprit s'oppose très nettement au projet de Paul et Silas, sans doute pour évangéliser Éphèse, mais peut-être Smyrne aussi, qui était une deuxième grande ville très importante, et la plus romaine, d'ailleurs, des villes d'Asie, justement, c'était Smyrne. Alors, si, les actes ne nous offrent aucun détail sur la manière dont l'esprit s'y est pris pour les arrêter. Mais en revanche, on trouve dans le livre aux Galates, au chapitre 4, quelques informations. En Galates 4, 13 à 14, on découvre que Paul était subitement tombé malade et qu'il a dû pour cela s'arrêter en Galatie, et qu'il est accueilli par des Galates. Alors vous savez, l'hospitalité était quand même quelque chose de très important à l'époque. Donc il est accueilli par des Galates qui sont étrangers, et là il se met à prêcher, puisqu'il ne sait faire que ça, Paul. C'est pasteur, donc malade ou pas, il annonce l'Évangile. Et voilà, donc on a là un petit détail sur la manière dont l'esprit s'y est pris pour stopper Paul dans son élan vers Éphèse. Paul n'a pas l'air de lui en tenir rigueur, d'ailleurs. Et puis donc, après être passé en Galatie, être guéri, être remis sur pied, eh bien, ils continuent parce qu'ils sont arrivés aux limites de la Mysie. Alors, je ne sais pas non plus si sur vos cartes, on peut voir la Mysie. C'est au nord-ouest de l'Asie mineure, si vous voulez. Un territoire très proche du Bosphore, c'est-à-dire des fameux détroits du Bosphore, détroits des Dardanelles, mais vraiment plus au nord que les Dardanelles, d'accord ? Ils étaient montés assez loin. Et là, ils vont traverser la Mysie et descendre à Troas, mais on va voir dans un moment pourquoi, puisque de nouveau, là, l'esprit s'est opposé à ce qu'ils aillent encore, parce que chaque fois Paul essaye de repartir vers l'ouest, mais chaque fois c'est niette, on ne peut pas faire ça. Alors ils sont donc amenés, après avoir été refusés pour retourner à l'ouest, amenés à gagner la Bithynie, qui elle est tout à fait à l'extrême nord, par conséquent au nord de l'Asie mineure, la zone côtière, si vous voulez, quasiment, hein, qui va donner sur la mer Noire. C'est un territoire avoisinant la Mysie. Je ne sais pas trop quelle était leur intention en montant si haut, mais bon, voilà, l'esprit, en tout cas, les empêche de, d'aller à gauche, quoi, tu vois, d'aller vers l'ouest. Et finalement, tous ces détails géographiques nous permettent de comprendre quel a été l'itinéraire de Paul, en réalité. Donc, désirant se rendre à l'ouest, du côté d'Éphèse, l'Esprit Saint les guide vers la Phrygie, au nord de la Galatie, au nord-est. Ils sont arrivés ensuite aux limites de la Mysie et voulant aller plein nord, vers la Bithynie, deuxième refus de l'Esprit. Non, non, vous ne continuerez pas vers le nord non plus. Bon, c'est très clair. Ni à l'ouest, ni au nord. Et là, là ils se retrouvent sans doute un peu dans la confusion. Et l'Esprit va donc les inviter à prendre la seule route possible, la seule route qui restait. C'est une route tout à fait au nord du pays qui va vers ce qu'on pourrait appeler le nord-ouest, si vous voulez, de la Turquie actuelle, et qui va déboucher sur la ville de Troas. Alors, de la ville de Troas, on peut voir les Dardanelles. Donc c'est très près. En fait, si vous partez de Troas, que vous traversez le détroit des Dardanelles, vous êtes sur le continent quasi européen. Donc en continuant à pied, vous auriez pu atteindre Philippe, par exemple, d'accord ? Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Donc arrivé à Troas, là, j'ai l'impression qu'ils se demandent pourquoi ils sont là. Ils sont arrivés là parce que l'esprit les empêche de faire autre chose. Mais on verra dans un moment alors pourquoi. Donc tous ces petits détails géographiques qui nous paraissaient peut-être un peu barbants à la lecture nous montrent comment l'esprit les a guidés. Et ici, en l'occurrence, pour la deuxième fois, on nous parle de l'Esprit de Jésus. Dans le premier cas, c'était l'Esprit Saint. Là, c'est l'Esprit de Jésus. J'y reviendrai dans un petit moment. Combien pensez-vous qu'ils ont fait de kilomètres depuis l'Istre, depuis qu'ils ont embarqué Timothée ?
Des centaines.
Un énorme paquet. Parce qu'ils ont fait des petits tours, des détours. L'esprit les a pas lâchés.
Oui, et rien par des moyens autres que les pieds. Hein.
On suppose, hein, en tout cas de l'Istre à Troas.
C'est un peu montagneux, tout ça, hein.
Oui, en plus, c'est pas des chemins faciles. Il y avait quand même 1500 kilomètres.
Oui, quand même.
Vous imaginez, on imagine bien la pérégrination, l'évangélisation progressive, de bled en bled, etc. Donc de nouveau, un temps assez conséquent. Et je suppose que quand ils arrivent à Troyes, c'est vraiment la question. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Voilà. Parce que ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu de faire, etc. Donc pour la deuxième fois, l'Esprit Saint ne les laisse pas réaliser l'objectif d'aller tout à fait au nord. Et on nous dit qu'il s'agit de l'Esprit de Jésus. Alors, c'est clair que le grec ne nous permet pas de vraiment comprendre pourquoi la différence entre l'Esprit au premier texte et puis l'Esprit de Jésus ici. Mais peut-être doit-on se dire que dans le texte biblique et dans d'autres textes bibliques, par exemple, on va parler de l'Esprit du Seigneur. Donc, l'Esprit du Seigneur, on trouve ça dans Acte 5, dans Acte 8, etc. On trouve aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, et dans les Épîtres aux Romains et dans celle de Pierre, on trouve une autre expression, l'Esprit du Christ. Donc, il y a bien une sorte d'association qui est sans doute liée au message évangélique lui-même, quand Jésus parle de la promesse qu'il fait, qu'un consolateur leur sera envoyé, que c'est son esprit, finalement, qui est envoyé. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, comme un esprit qui est réellement associé à la personne de Jésus. Donc suivre l'esprit, c'est suivre Jésus. On ne peut pas se tromper, quoi. Et donc pour eux, ils savent, je ne sais pas comment, qu'ils ont été arrêtés par cet esprit. En tout cas, c'est Luc qui le déclare. C'est d'ailleurs la seule mention dans tous les écrits de Luc de l'esprit de Jésus. Et là, arrivés là, à Troas, ils sont dans une ville assez grande, qui est une colonie romaine, et un port qui donne sur la mer Égée. Un port assez considérable, hein, vu le flux de trafic qu'il y avait à l'époque, très proche du détroit des Dardanelles, ce fameux passage maritime de la mer de Marmara, entre le Bosphore et les Dardanelles, il y a une autre mer. vers la mer Égée, qui relie ainsi la mer Noire à la mer Méditerranée. Mmh. Cette ville est une colonie romaine depuis Auguste, c'est-à-dire depuis le début de l'Empire romain. Donc c'est assez romanisé, on va dire. Et là, verset 9, que se passe-t-il ? Puisqu'ils n'ont aucune directive.
Ils dorment.
Oui. Alors, oui, apparemment, ils se reposent des 1500 bornes. Peut-être bien. Alors, le grec est assez amusant parce qu'il dit littéralement une vision apparue, tu vois.
Ah oui. Hein?
Tandis que nous, on dit qu'on a eu une vision en français. Oui. Mais là, c'est une vision, pac, apparue à Paul pendant la nuit. Alors, dormait-il, ne dormait-il pas ? Était-il comme Pierre, à moitié éveillé, à moitié endormi ? En tout cas, cette vision lui apparaît. Et que dit-elle ?
Là, il voit Macédoine debout,
mm-hmm.
qui lui a adressé cette prière. Passe à Macédoine et viens à notre secours.
Voilà. Ok. Donc ça, c'est
comment ce... peut-on reconnaître un macédonien ?
Voilà, ah ben voilà. C'est une excellente question.
Un
voilà.
Oui,
ça, debout de préférence. Alors, d'abord un mot sur la Macédoine, parce que la Macédoine n'a rien à voir avec ce que nous croyons. Enfin, je ne parle pas des légumes. Hein. Je parle du territoire. Hein. Donc, la région, cette région de Macédoine est située au nord de la Grèce, si vous voulez. Elle comprenait alors des territoires qui couvraient au moins 6 pays d'aujourd'hui, c'est-à-dire 6 pays des Balkans, la Macédoine du Nord, l'actuelle Macédoine du Nord, en entier, de grandes parties de la Grèce et de la Bulgarie, et de petites parties de l'Albanie, de la Serbie et du Kosovo. Voilà, pour vous dire que c'était quand même assez immense, hein, la Macédoine. Avec des ethnies un peu différentes, mais toujours d'origine slave. Ce sont des Slaves, les Macédoniens. La Macédoine, c'est une province romaine depuis 146 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au tout début de l'Empire romain. Elle était divisée en 4 districts, dont celui qui va nous occuper, celui de la ville de Philippe. Et elle était stratégiquement importante. J'avais posé une question là-dessus dans le questionnaire. Pourquoi Troas ? Parce que ça va les amener de l'autre côté, sur une route. Donc quand ils vont arriver en Macédoine, si vous voulez, dans la ville de Philippe, ils vont se retrouver sur une grande route romaine, dont on reparlera dans un moment. Et cette route romaine s'appelle la Via Egnatia. Elle a été construite 2 ans après la mise en place de l'Empire romain. C'est-à-dire que les Romains, ils y allaient franco. Hein. C'est une autoroute, en fait. Hein. L'autoroute des Romains. Tout ça, souvent, pour faire passer leur armée et le commerce, hein, les deux. Alors, cette vision de Paul, justement, tu me fais bien de poser la question.
Comment il a reconnu ?
Oui. Est-ce que c'était reconnaissable, un Macédonien ? Surtout si tu n'en avais jamais rencontré. Non, elle nous fait, en tout cas, un peu penser à la vision de Pierre, non ? Avec cette histoire de Corneille. C'est un peu le même genre de vision. Donc ça veut dire que l'esprit ne les a pas laissés errer à Troas pour chercher que faut-il faire, mais que dès qu'ils sont arrivés, quasiment, Paul, principal initiateur de ce groupe missionnaire, est informé dans son rêve que l'objectif, c'est la Macédoine, sans trop savoir peut-être encore ce qu'il allait y faire. Un peu comme Pierre et Corneille, où il fallait monter au nord d'Israël pour aller parler à un type qui était centurion, donc officier de l'armée romaine, païen, etc. Bon, on imagine un peu la difficulté. En tout cas, on peut dire que la vision de Pierre, ça avait permis à l'Évangile de dépasser les frontières du judaïsme sur son propre territoire, si vous voulez, tandis que la vision de Paul va les amener carrément sur un autre continent, vers des populations qu'ils ne connaissaient pas au départ. Alors on se demande effectivement comment Paul a pu identifier cet homme à un Macédonien. Alors à l'époque, vous savez, on avait tous des costumes, hein, chaque ethnie s'habillait d'une telle ou telle manière, peut-être à l'habillement, peut-être à la façon de prononcer le grec, de parler le grec, ou tout simplement, et beaucoup plus simplement, j'avais envie de dire, ben à cause du contenu de l'invitation. Nous, nous imaginons qu'il reconnaît un Macédonien, mais peut-être que c'est simplement le fait qu'on lui dit « Viens en Macédoine chez nous ». Bah oui, alors c'est un Macédonien, manifestement. Oui, non, parce que quand même, je me suis posé la question comme vous au départ, et je me suis dit quand même c'est bizarre, ça. Et puis finalement, quand tu lis bien le texte, tu dis « Bah oui, quand même, à moins d'être très très bête, tu es bien obligé de dire « Ça doit être un Macédonien, quelque part », même si on ne le reconnaît à rien. Et cet appel du Macédonien... Qu'est-ce qu'il vous fait, à quoi vous fait-il penser? Des courtes phrases qu'il prononce. Si on le prononce. Oui, c'est quoi c'est? C'est pas quelque chose de style. Si tu as le temps, viens nous parler de l'Évangile.
Il y a comme une
urgence, effectivement. Moi, ça m'a fort frappé qu'il utilise des termes comme « au secours ». C'est un peu ça, si vous voulez. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi faudrait-il secourir les Macédoniens, particulièrement, d'ailleurs, voilà. C'est une excellente question. Je pense qu'il faut... Le verbe en grec, c'est vraiment « porter secours ». Le premier terme, si vous voulez. La deuxième formule, c'est « viens-nous en aide ». C'est la même chose, finalement. Donc, c'est soit il faut sauver quelque chose, soit il faut aller aider d'urgence quelqu'un. Et donc, notamment, l'ethnie des Macédoniens. Moi, j'ai envie de comparer, je ne sais pas si ça vous est passé par l'esprit, cet appel au secours à celui de la Cananéenne. Vous savez, à un moment donné de l'histoire, dans les évangiles, Jésus voyage hors Israël, il monte vers Tyr et Sidon, et là, il rencontre une Cananéenne, donc une païenne, hein, de la région, qui, dans sa détresse, parce que sa fille est possédée par un démon, dans sa détresse, appelle Jésus à son secours. Et dans les deux cas, ce sont des païens. Dans notre cas ici, comme dans le cas de la Cananéenne, qui s'attendent à bénéficier de la grâce. Donc peut-être qu'on peut aussi imaginer que Dieu était déjà acteur dans le cœur des étrangers païens, au loin, conscients peut-être de leur manque ou de leur perdition, peu importe, qui fait que ça devient un appel au secours. Il nous faut quelque chose qu'on n'a pas pour pouvoir vivre correctement. Donc ce sont des païens. Alors dans les deux cas, dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est un appel à la grâce, si vous voulez, pour la vie présente, la vie d'aujourd'hui. Alors rappelons-nous, on est dans une province romaine dominée par les Romains, sous le joug romain. Les Macédoniens ne sont pas des Romains, hein, etc. Et puis le joug de Satan, le joug de l'ennemi. C'est-à-dire, viens à notre secours parce que nous sommes perdus. Nous n'avons pas la lumière, etc. En plus, on sait que c'est une vision. Donc on sait que c'est pas un Macédonien qui s'appelle... je ne sais pas, Tassoulis, tu vois, et à qui il inviterait Paul à venir chez lui. Non, bizarrement, c'est juste une vision, c'est l'appel de la Macédonie, si vous voulez, pour venir à l'aide d'un grand groupe de personnes. Et puis c'est peut-être aussi la grâce pour la vie à venir, pour l'éternité. Alors dans les deux cas, les protagonistes discernent bien leur... manquement, leur impossibilité d'être sauvé ou de sauver sa fille pour la Cananéenne, si Dieu n'est pas à leur côté. Et donc peut-être aussi que les Macédoniens attendent un autre Dieu, un peu comme les Athéniens, un autre Dieu qui va enfin les délivrer du paganisme et de tout ce qu'ils ont à subir. Donc on pourrait presque dire que le secours de ce Macédonien, c'est « viens sauver nos âmes ». C'est du salut de l'âme dont il est question, quoi. Et qu'est-ce qu'on découvre au verset 10, alors? Comment réagit Paul et tous les autres?
Aussitôt.
Ouais. Donc là, à peine Paul raconte sa vision, que tout le groupe dit, ben oui, c'est ça. C'est pour ça que l'Esprit nous a amenés ici. C'est pour aller directement en Macédoine. Et le chemin le plus direct, c'est celui de la mer. Parce que si on prend le continent, il y en a encore pour un bon moment. Alors vous remarquerez que d'après le texte, hein, c'est pas moi qui l'invente, la traversée entre Troas et le port de Néapolis, qui est le port de Philippe,
tout droit.
Ça s'est fait en 2 jours. Mm-hmm. T'aurais pas mis 2 jours à pied pour aller à Philippe par le continent. Et même ce qui est exceptionnel ici, c'est que dire que ça s'est fait en 2 jours, ça veut dire que les vents devaient souffler très favorablement pour eux. C'est-à-dire plutôt du nord-est pour pouvoir aller vers Philippe. Alors oui, donc c'est intéressant de regarder sur la carte. En fait, ils vont aller tout droit cap sur Samothrace. Mais ça, on y revient dans un petit moment.
300 km.
Quand même, pas mal.
Ils pouvaient faire en navigation.
Mais eux, ils n'avaient pas les moteurs.
Oui, c'était à la voile. Hein. Pas à la rame, à la voile. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans ce verset 10 ou pas? D'ailleurs,
ils sont convaincus.
Oui, ça, ils sont.
Ça, c'est bon.
Ça, c'est très clair. Mais un petit détail au niveau du français. Enfin, du français ou du grec, hein, peu importe.
Nous allons chercher à partir.
Voilà. Ça ne vous choque pas, ça, que le nous?
Oui, chercher à partir. Oui. C'est-à-dire que.
C'est qui le nous?
C'est l'équipe, hein.
Oui, mais imagine, jusqu'à présent, on a lu dans les actes, ils, eux, l'Esprit leur a dit que...
Luc est dedans.
Et voilà, tout d'un coup, Luc est là. Luc est inclus dans le groupe. Alors, on ne sait pas trop comment, mais j'y reviendrai dans un moment. Il y a un « nous » qui n'existait pas auparavant et qu'on va retrouver dans plusieurs sections des actes. Pas tout le temps, mais par exemple, dans acte 20, les versets 5 à 15... Dans acte 21, les versets 1 à 18, ou au chapitre 27 jusqu'au chapitre 28, il y a des formulations en nous. Donc il semblerait que Luc se soit adjoint au groupe à un moment donné et pour un temps déterminé. Pas pour tout le temps non plus, mais je vais y venir dans un petit moment.
Ça ne peut pas être un majestatif.
Non, parce que Luc a vraiment pris soin de parler de ce qui se passait d'une manière... comme un historien, quoi.
Et on va voir la différence dans les écrits quand il en parle. Est-ce qu'il est plus encore...
Moi, il y a marqué « Luc est désormais du voyage », comme le souligne l'expression « nous », se pose en témoin oculaire, et non plus seulement en historien.
Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va raconter, c'est ce qu'il vivra avec eux. Voilà. Comme un vrai témoin oculaire, alors que, par exemple, on sait qu'il n'était pas le témoin oculaire de certaines choses dans les évangiles, bien qu'il ait écrit un évangile. Donc ce changement-là, il ne s'explique que par la présence de l'auteur. Si on passe du « il » au « nous » de la première personne du pluriel, donc, c'est qu'il est inclus dedans. Or, ce n'est pas si étonnant que ça, puisque Luc, il est quoi, Luc ?
Il est païen.
Il est païen, enfin d'origine païenne, et il est grec. C'est une des routes pour se rendre en Grèce, éventuellement.
Mais vraiment, de Grèce ?
Oui, lui est grec. Et il revient peut-être de Grèce aussi bien. Il se retrouve dans un même port avec les autres.
Comment sait-on qu'il est de Grèce ?
Alors ça, c'est ce que j'ai toujours appris. Donc je n'ai pas été vérifié non plus s'il était d'une autre nationalité. Mais il est médecin, donc il a étudié, et il est grec.
Quand on disait qu'il était grec, moi je
pensais
qu'il parlait grec.
Mais... Ah oui, non, on pourrait dire que... Parce que parfois l'Évangile dit cela, le Nouveau Testament dit ça. Hein. On dit quelqu'un qu'il est grec, mais parce qu'il parle grec. Mais là, c'est vraiment qu'il est d'origine grecque. Et donc, on ne sait pas comment, mais il les a rejoints à Troas. On ne sait ni pourquoi, ni comment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est lui-même d'origine grecque. Donc aller vers la Macédoine n'est pas... Pour aller en Grèce du Sud, par exemple, c'est tout à fait possible. Il est possible qu'il était lui-même en voyage, qu'il a atterri dans le port de Troas par bateau.
Il a été revoir sa famille.
Voilà, pourquoi pas. Et peut-être même était-il déjà à Troas avant l'arrivée du groupe, puisque tout d'un coup, il les retrouve. Hein. Donc, en tout cas, suite à la vision de Paul, le verset 10 laisse entendre que ce petit groupe de 3-4, donc rappelez-vous, Paul, Silas, Timothée, qu'on a adjoint, et maintenant Luc, sont unanimes et même, d'après le texte, pressés de s'embarquer pour la Macédoine. Tant ils étaient en tout cas convaincus que cette vision était bien un appel de Dieu à évangéliser la Macédoine. Et pour une fois qu'ils ont le feu vert, ils s'empressent de prendre Dieu au mot. Jusque-là, c'est chaque fois non, non, deux fois non, une fois oui. Donc là, on y va. Maintenant, on sait qu'on peut y aller. Et verset 11, donc, ils prennent la mer à Troas. Et toujours en termes de nous, nous avons mis le cap directement sur Samothrace. Alors, Samothrace, c'est une assez grosse île, à plus ou moins mi-chemin, plus ou moins, plus près de la Macédoine que de l'Asie. Une assez grande île. Alors, je ne sais pas si vous pouvez toujours regarder sur Internet. Quand on demande Samothrace, on voit que c'est une île assez grande et très montagneuse, avec des montagnes assez élevées quand même. Et là, même si le texte n'est pas très clair, on doit peut-être quand même comprendre qu'il y a eu une escale. Si ce n'est dans Samothrace même, à un point d'ancrage, peut-être en mouillage, pas très loin de l'île de Samothrace. Peut-être aussi parce que la nuit, le vent change, n'est peut-être plus aussi fort ou ne soufflant plus dans la même direction, et qu'ils attendent le vent favorable pour repartir. Voilà. Donc, en tout cas, il y a ce cap-là qui est pris par le groupe pour atterrir, en définitive, à Néapolis, qui est une ville bâtie en face de l'île de Thasos, donc qui est une île très proche. C'est le port de la ville de Philippe. Alors, il faut savoir que le port est très éloigné de la ville même de Philippe, qui est une ville romaine, une colonie romaine. Il y a 18 kilomètres à peu près à faire pour rejoindre le port, la ville de Philippe à l'intérieur des terres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu la rapidité du voyage, alors 2 jours seulement, et si vous enlevez encore quelques heures de la nuit, parce que peut-être les vents n'étaient pas favorables, etc., etc., où ils sont restés du côté de Samothrace, on peut donc déduire qu'ils en ont profité, vraiment profité d'un vent très favorable à eux, comme si l'esprit souffle où il veut. Hein, du coup, on est catapulté en Macédoine, si je puis dire. Alors, il faut savoir que Samothrace était aussi une île importante, donc il y avait beaucoup de trafic, et que probablement presque tous les navires s'arrêtaient pour embarquer des gens et débarquer des gens. Voilà. Donc ce serait tout à fait naturel qu'ils se soient arrêtés un certain temps, ou embarquer du fret aussi. Et le lendemain, donc, ils sont parvenus en Europe, là où finalement Dieu souhaitait qu'ils soient, depuis le début du voyage. Mais ça, ils ne le savaient pas, eux, évidemment. Là où ils n'avaient absolument pas imaginé aller, très très loin de Jérusalem, et de leur attache au judaïsme messianique, et bien loin aussi de l'église d'attache d'Antioche de Syrie, des milliers de kilomètres déjà. Et de là, donc, une fois arrivés à Néapolis, ils filent toujours. Hein, donc là, il n'y a pas question de s'arrêter. On file jusqu'à la première vraie ville. Et la première vraie ville, c'est la ville de Philippe au verset 12. Et là, le grec cafouille un peu. Donc, on peut traduire plusieurs choses différentes au sujet de la ville de Philippe. Hein, certains disent que c'est la ville principale du district. D'autres disent que c'est la première ville en entrant en Macédoine. Donc, selon comment on traduit le grec... Alors, on va essayer de s'y retrouver un tout petit peu. Philippe, c'était une ville ainsi nommée parce que fondée par un roi, Philippe Ier, roi de Macédoine. Et l'empereur Auguste y avait établi une colonie romaine depuis plus d'un siècle à l'époque. Donc c'était vraiment une ville romanisée, si vous voulez. La ville, en plus, jouissait d'un droit qui était assez rare, que l'Empire distribuait à quelques villes comme ça, jouissait du droit italique, ius italicum en latin. Ça veut dire qu'il bénéficiait des mêmes avantages juridiques que si cette ville avait été située sur le sol italien. Donc ça veut dire qu'on les reconnaît comme vraiment une portion de l'Empire, loin de l'Empire, mais quand même, et que tout y est régi selon le droit romain. Presque tout est romain dans cette ville. Le nombre des habitants, la plupart sont des vétérans d'Antoine et des paysans italiens qu'on avait déplacés pour cultiver cette région. La langue, le latin par conséquent, les lois, les magistrats, dont on reparlera plus tard quand on fera le texte suivant, dans les versets 20-21, et toute l'administration de cette ville est romaine. Donc c'est comme si on était à Rome, en fait, tout simplement. Et donc, de nouveau, pas de hasard. Non seulement Néapolis, le port, Philippe, est sur une voie romaine, très fréquentée, voie romaine qui mène de l'autre côté de la Macédoine sur la mer Adriatique. Et en face se trouve l'Italie. Donc c'était la voie royale, si vous voulez, pour se rendre dans le cœur de l'Empire. Alors maintenant, bataillons un peu sur le grec. La ville principale, dit le grec, première ville du district de Macédoine. Le grec est assez flou dans sa formulation, mais il serait plutôt juste quand même de traduire et de comprendre qu'il s'agissait de la première ville en pénétrant à l'intérieur des terres de Macédoine. En effet, Philippe, ce n'est pas le chef-lieu, et on le sait par les historiens. Philippe n'est pas le chef-lieu de ce district, puisqu'il s'agit d'une ville pas très loin, qui s'appelle Amphipolis, qui est vraiment la capitale du district. Voilà. Ou alors on pourrait encore traduire que Philippe est la ville du premier district de Macédoine. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, on sait aussi que c'est aux Philippiens que Paul adressera sa fameuse lettre aux Philippiens. Alors, vous me direz, le choix de débuter leur parcours européen par cette ville de Philippe peut s'expliquer par plusieurs phénomènes. D'abord, le choix de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Ce voyage, c'est Dieu qui le dirige complètement. Depuis quasiment l'embarquement de Timothée dans leur équipe. Le choix de Dieu. Deuxièmement, le caractère romain de cette ville. Parce que ça va quand même avoir des conséquences. Si on prêche à Philippe, on peut imaginer toucher un certain nombre de Romains. Parce que tous les gens sont citoyens romains dans cette ville. Et on voyage beaucoup à cette époque. Donc on peut imaginer que l'évangile se dissémine finalement grâce à cela. Un autre argument intéressant, c'est peut-être aussi la citoyenneté romaine de Paul et Silas, qui va d'ailleurs, dans la péricope suivante, bien les aider. Philippe, je le rappelle, se trouve sur la Via Ignatia, qui relie Néapolis, c'est-à-dire la mer Égée, au port de Dyrrachium, ville située en bordure de la mer Adriatique, un très grand port de commerce qui avait donc pignon sur rue pour aller dans l'Empire romain, passer sur le sol italien. Tous ces arguments sont importants à retenir parce que finalement, Philippe, ça va être une ville stratégique pour la suite, en tout cas, des Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, le texte précise, dans la fin du verset en question, verset 12, qu'on y est resté quelque temps, dans cette ville. Donc, étonnamment, Paul avait compris l'importance stratégique d'évangéliser cette ville païenne et d'y fonder une église. Il a pris le temps de commencer une évangélisation à cet endroit, en arrivant en Europe, pour favoriser l'ensemencement de la bonne nouvelle vers le cœur même de l'Empire. En tout cas, c'est sans doute ce qu'il souhaite. Et ce faisant, en évangélisant Philippe, c'est aussi évangéliser plusieurs ethnies. Tout le monde n'est pas macédonien à Philippe. Il y a des Macédoniens, mais il y a des Italiens, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des vétérans, des gens qui ont fait la guerre pour les Romains, qui eux-mêmes sont parfois de plusieurs ethnies différentes, hein, ce n'est pas des Romains, nécessairement. Donc on risque de toucher large en évangélisant à Philippe. Et puis, comme à son habitude, Paul va chercher à toucher les Juifs en premier. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Il cherche
les Juifs. Hein.
Ah oui,
il cherche les Juifs.
Il cherche tellement bien qu'il ne trouve pas d'hommes.
Oui,
c'est
ça. Ah oui, non. Donc, alors, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est le verset suivant, verset 13, qui nous le dit. Alors, comme à son habitude, il aurait été en synagogue, il se trouve qu'il n'y a pas de synagogue à Philippe. pas l'ombre d'une synagogue. Et c'est la raison pour laquelle, dans le questionnaire que je vous avais posé, mm-hmm. ils sont obligés de sortir de la ville. Il n'y a pas de lieu de prière dans la ville de Philippe. Pas pour les Juifs, en tout cas. Donc, le jour du Shabbat, on en profite pour faire une petite promenade, en essayant de respecter la loi, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin. Ils franchissent la porte, dit le texte, et puis, alors il faut savoir qu'il y a une rivière qui passe très près de la ville de Philippe, mais encaissée dans un petit vallon. C'est vraiment très étroit, une petite rivière de rien du tout. Et ils gagnent donc cette rivière, ils longent cette rivière un instant, parce qu'ils en avaient déduit que s'il n'y avait pas de synagogue, alors vous voyez, la déduction, il faut vraiment y penser. Oui, exactement. Donc s'il n'y a pas de synagogue et qu'on veut prier ou se purifier d'un péché quelconque, il ne reste que la rivière comme possibilité. Et donc il dit, s'il y a des Juifs, on va les trouver. On ne les trouve pas en ville parce qu'il n'y a pas de synagogue, mais on va les trouver à la rivière. Et donc c'est pour ça que le texte insiste en disant, ben, nous pensions. Oui. Donc c'est une hypothèse. Ils font l'hypothèse que s'il y a des Juifs à Philippe, on va les trouver là au bord de la rivière. Et donc c'est ce qu'ils font.
C'est ça qu'il devait absolument être dans des bains, tu vois,
des mikvés. Non, non, tu peux. Bah, la preuve, tu baptisais Jean-Baptiste, baptisé dans la rivière. Hein, voilà. C'est le même genre de. Mais il faut de l'eau vive. Alors attention, même pour un mikvé. Hein.
Ah, oui.
Un mikvé, ça ne peut pas être de l'eau stagnante. C'est de l'eau de source qui coule, qui entre à un point, qui sort de l'autre côté. Donc là, c'est un peu la même chose, si tu veux. Et donc, cela ne laisse supposer qu'il n'y avait même pas 10 hommes juifs. Parce que pour pouvoir faire une synagogue, déjà, à l'époque, il faut être 10. 10 hommes mâles, si tu veux. Sans ces 10 mâles, on ne peut pas fabriquer. Alors, vous savez, il n'y avait pas toujours des synagogues bâtiments. Il y avait dans la diaspora beaucoup d'endroits, des petites alcôves. Enfin, ce n'était pas vraiment des maisons, des lieux qu'on destinait à la prière. Et puis, les autres nous laissaient faire, donc c'était très bien. Et là, apparemment, ben, ça se passe plutôt du côté de la rivière. Petite rivière. Hein. Et je pense aussi que le fait de sortir de la ville, c'est une manière de séparer des païens. Donc, puisqu'il n'y a pas de synagogue pour entrer quelque part, eh bien, on se sépare totalement, on va en pleine nature. Et en découvrant ce lieu, qu'ils vont découvrir, effectivement, il était alors facile d'évangéliser les Juifs qui vivaient à Philippe. Mais le texte, de nouveau, nous surprend, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de mal. Ceux qui sont évangélisés et qui ont la culture juive sont des femmes. Et des femmes apparemment fidèles, puisqu'elles se retrouvent là, parce que c'est Shabbat, parce qu'elles font leur prière au bord de la rivière. Le texte donc précise cela, il n'y a que des femmes, ce qui accrédite bien la raison pour laquelle il n'y a pas de synagogue intramuros dans la ville de Philippe. Et on nous dit que Paul, enfin le groupe, hein, les quatre, parlent à ces femmes. Alors il ne s'agit pas nécessairement d'entretenir une conversation sociale, mais d'enseigner évidemment. Donc ils parlent pour porter témoignage, pour évangéliser, pour enseigner. À ces femmes qui sont réunies là, on n'en connaît pas le nombre, mais on sait juste qu'il y en a une en particulier. Et qui s'appelle comment ? Celle dont on connaît au moins l'identité.
Lydie.
Voilà. Alors, ce qui est quand même étrange, c'est que c'est un mâle macédonien qui appelle au secours et qui finalement débouchera sur des premières conversions, qui sera une femme d'origine païenne, mais devenue, en tout cas, affiliée au judaïsme. Alors, on va essayer de bien comprendre ça, parce que ça vaut vraiment le détour. Les évangélistes viennent au secours des païens d'Europe et tombent d'abord sur un groupe de femmes qui pratiquent le judaïsme. L'une d'elles, verset 14, nommée Lydie, marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu, était tout oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur, un peu comme le Macédonien de la vision, pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Alors, D'où est originaire cette bonne femme? Est-ce qu'elle est macédonienne?
Non.
Non. Elle est elle-même d'un coin... Oui, alors c'est étrange de nouveau. Elle est d'un coin où Paul aurait aimé aller en allant vers Éphèse, mais qui lui a été interdit. Et finalement, il va tomber sur quelqu'un de cette région, à l'ouest de l'Asie, justement.
C'est le mémoire du Seigneur.
Ça. Oui, c'est assez intéressant, je trouve. Alors, je pense qu'il faut peut-être se dire que le nom qu'elle porte, qui est le nom de sa région natale, n'est certainement pas son nom, en réalité. Donc, elle s'appelle en grec Lydia, c'est-à-dire la Lydienne, comme une sorte de surnom, si vous voulez. C'est l'étrangère, elle n'est pas d'ici, elle n'est pas macédonienne, elle n'est pas romaine, mais c'est la Lydienne, c'est celle qui vient de Lydie, en Asie mineure, par conséquent. C'est une femme, donc, d'origine païenne, et le texte précise, avec Luc toujours très précis, qu'elle est déjà, alors le grec dit, adoratrice de Dieu. Donc la top traduit déjà un peu de travers, je trouve, je ne sais pas quelles étaient vos versions.
Craignant Dieu.
Craignant Dieu, voilà, mais vraiment, c'est assez intéressant, le grec insiste sur l'idée qu'elle est pieuse. C'est une femme qui a une vraie relation avec Dieu. Adoratrice de Dieu, ou peut-être prosélyte, affiliée au judaïsme. Et elle est originaire d'une ville située en Lydie, qui était un grand centre commercial de teinturerie qui exportait des tissus, alors de couleur violacée, pourpre, hein, si vous voulez, très appréciés dans tout l'Empire, qui étaient souvent utilisés pour les vêtements sacerdotaux, les gens de la justice, évidemment, les empereurs, les sénateurs, tous avaient au moins une bande pourpre, si ce n'est un habit pourpre, d'accord, pour les distinguer, pour qu'on sache qui ils sont. Et c'est aussi une ville qui exportait énormément de vêtements tout faits, tout fabriqués. On pratiquait le tissage de la laine, du lin, la tannerie, tout ça c'est Thyatire. Et c'est sa ville natale. Eh bien, cette femme, on découvre, c'est pas n'importe qui. Alors, elle est d'origine païenne, certes. Elle est pratiquante juive, si vous voulez. Elle est marchande de pourpre, c'est-à-dire le produit le plus cher de l'époque, parce que rare. Et pourquoi rare? Parce qu'en fait, pour fabriquer la pourpre, il y avait deux possibilités. Soit certains coquillages, et par exemple avec les coquillages, on dit, j'ai lu les résumés scientifiques, il faut, pour faire 1,4 g de piment, il faut au moins concasser 3000 coquillages, des coquillages comme ça. Bon, donc, c'est du boulot, et donc ça coûte. Et dans la région de Thyatire, là, c'est plutôt à base de rhizomes d'une plante qu'on appelle la garance, en français, une plante qui, dont la racine, quand tu l'écrases, produit un jus extrêmement violacé et qui permettait de teindre les tissus. Donc, quelle que soit l'origine du pourpre, on sait que c'était un produit de luxe extrêmement rare et difficile. Et donc cette femme, c'est non seulement une marchande, mais elle est donc, on nous indique clairement par là qu'elle est riche. Elle commerce du pourpre. Elle commerce pas des sandwichs, des frites, mais quelque chose qui coûte énormément et qui lui fait gagner de l'argent. Et on apprend aussi un peu plus loin dans le texte qu'elle a une baraque avec des serviteurs, une famille, etc., etc. Donc c'est vraiment la dame installée à Philippe, hein, c'est pas n'importe qui. Elle n'est pas sous une tente en bordure de la ville, quoi. Et cette femme, donc, telle qu'elle est, je dirais, on pourrait presque dire émancipée, parce qu'on ne parle absolument pas de mari dans le texte, et pas après non plus. Donc une femme expatriée, marchande, commerçante, riche, vivant à l'étranger, émancipée de son paganisme aussi, sa première culture. Elle a embrassé le Dieu d'Israël, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, le texte qui est assez laconique, finalement, nous dit qu'elle est particulièrement sensible et attentive à l'écoute de la bonne nouvelle du temps messianique et de l'accomplissement de la promesse que Paul est en train d'expliquer par les prophéties, etc. Et le texte rajoute même, pour qu'on soit vraiment convaincu, que finalement c'est le Seigneur lui-même qui œuvre en elle pour qu'elle soit réceptive. Donc elle était déjà gagnée, si vous voulez, à quasi 80% par son judaïsme qu'elle avait adopté. Il reste 20% à faire pour qu'elle devienne messianique. Eh bien, le Seigneur avait déjà commencé à bosser dans elle pour qu'elle soit particulièrement attentive dans ce groupe de femmes et la toute première, en tout cas, à sortir du lot. Et puis, on peut alors s'attacher un peu au verset 15, où là, on découvre que... Alors, évidemment, peut-être pas du jour au lendemain, parce que les verbes sont quand même au passé, plutôt faisant état d'une durée. Elle a sans doute été plusieurs fois aux enseignements de Paul avant d'être elle-même baptisée. Donc lorsqu'elle reçoit le baptême, elle demande à ce que toute sa maison soit baptisée, comme ça se faisait à l'époque. D'accord ? Alors, une petite parenthèse ici, pour certains protestants professants plutôt de type baptiste, on défend bec et ongle le baptême des adultes. Il faut quand même reconnaître que dans les origines bibliques, il y a sans doute eu des baptêmes de jeunes et d'enfants parmi ces maisonnées. Ce n'est pas la seule dont on parle dans les Actes des Apôtres. On ne sait pas ce qu'il en était pour la maison de Corneille et les amis de Corneille. Là, on peut se dire que peut-être qu'il n'y avait que des adultes puisqu'il avait invité ses amis, trié sur le volet, etc. Mais peut-être que c'était aussi sa famille, y compris ses gamins. Et puis on reverra ça à d'autres endroits. Quoi qu'il en soit, donc, elle demande cela. Donc c'est vraiment qu'elle passe à l'acte. Comme elle était sortie du paganisme pour embrasser le judaïsme, elle fait la même démarche par rapport à cette vision messianique des choses, et elle demande que ce soit marqué par les eaux du baptême. Et on suppose qu'on baptisait à la rivière à ce moment-là.
La famille.
Oui, et les domestiques.
Et les domestiques.
Parce que là... La maisonnée en grec, c'est l'ensemble des gens qui vivent sous le toit de la maison. D'accord ? Et en l'occurrence, là, on ne peut pas douter qu'elle ait des domestiques, vu
son standing
de vie. D'accord ? Et puis, parce que c'était à la mode, Philippe, c'est romanisé. Donc, si tu n'as pas deux, trois domestiques, tu es un plouc, quoi. Ouais, il faut quand même respecter son rang. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans ce verset 15 ?
Elle invite deux hommes.
Oui.
Une femme, ce n'est pas seule, elle a une famille, elle a commandé de domestiques, comme on vient de dire, mais elle ose quand même inviter deux hommes.
Tu as raison, c'est assez étrange.
Oui.
Oui, tout à fait. Pour le premier siècle, en tout cas.
Il faut que ce soit vraiment une personne particulière.
Donc, il faut que ce soit déjà quelqu'un d'extrêmement convaincu, et je dirais même convaincu par la reconnaissance qu'elle leur porte, de leur avoir adjoint les 20% qui manquaient pour être totalement bien, finalement, dans son âme et dans sa peau. Et c'est très intéressant, parce que le grec le laisse bien comprendre que, en contrepartie de ce que les quatre lui ont apporté, elle tient absolument à leur donner l'hospitalité. C'est quand même assez simple à comprendre, puisque les quatre sont des étrangers à Philippe, ils sont nécessairement à l'hôtel, pas le choix. Et pour payer l'hôtel, ils travaillent certainement les uns et les autres, comme Paul l'a toujours fait. Donc, ils s'autofinancent, si vous voulez, dans leur ministère. Mais elle, par esprit de reconnaissance pour le salut qu'elle vit maintenant, rappelez-vous le Macédonien, au secours, ben voilà, elle fait partie de ceux qui ont appelé au secours, et il se trouve qu'elle a trouvé enfin la paix qu'elle voulait avoir pour sa vie. Et là... Et elle l'insiste bien, puisque vous estimez, si vous croyez que je suis fidèle au Seigneur, alors venez loger chez moi.
Mais il est marqué nulle part qu'elle n'est pas mariée. Hein.
Non,
pas
mais.
Parce qu'on parle d'elle, parce que c'est elle la commerçante. Que
oui, mais en même temps, tu remarques qu'elle ne parle qu'en termes de jeu. Mm-hmm. Donc là, en l'occurrence, c'est elle qui décide. Puisque je suis sauvé, puisque je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Alors évidemment, on ne va pas non plus, Voilà, exactement. Donc on ne va pas dire que si elle a une famille, une maisonnée, c'est qu'elle a été mariée à une époque donnée. Donc soit divorcée, soit veuve, mais plus probablement veuve à l'époque. Mais quand même, elle prend une très grande liberté par rapport à la culture ambiante, d'inviter 4 hommes à la fois à venir vivre dans sa maison pour un temps indéterminé, parce qu'elle ne dit pas juste 3 jours, juste ce soir. Ben, eux, ils vont rester encore à Philippe hein, pendant un certain temps. Voilà, donc je trouve ça...
une fameuse leçon de fraternité et d'hospitalité.
Assez extraordinaire. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Le premier témoin en Europe, c'est une femme. Un petit peu comme le premier témoin de la résurrection. C'est assez intéressant. Donc ça montre à quel point on dit beaucoup de choses sur la misogynie de Paul. Étrangement, il aura travaillé, collaboré avec des femmes. Et certains de ses fruits, bah, c'est manifeste que bah, les hommes sont absents. Ils sont même pas là. Ils n'existent pas à Philippe. Il n'y a pas de juifs. Il les a cherchés, mais il ne les a pas trouvés. Et celle parmi laquelle, parmi le public juif qu'il a, c'est une femme d'origine païenne. Et pourtant, c'est elle qui est la première. Vous voyez sa trajectoire paganisme, judaïsme, messianisme. La boucle est bouclée. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Et d'ailleurs, dans la ville de Philippe, et ça, on le lit dans le livre aux Philippiens, Philippiens 4, verset 2, d'autres femmes vont être nommées. Donc, on sait que dans le groupe de femmes qu'ils ont évangélisées, 2 autres vont sortir du lot, c'est Évodie et Saint-Tiche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces noms-là, que Paul mentionne donc dans l'Épître aux Philippiens comme étant actives dans cette ville et qui l'ont aidé dans la propagation de l'Évangile. Voilà. Donc je pense sincèrement qu'on peut dire que Lydie est extrêmement reconnaissante à ces 4 hommes de s'être déplacés depuis Jérusalem, Antioche, en passant sur des milliers de kilomètres pour venir leur apporter une parole qui éclate, comme elle a éclaté à Jérusalem, à Antioche, etc., et les convainc finalement que ça, c'est vraiment la voie à suivre. J'aime bien la fin du texte ici, où Lydie considère ses étrangers comme des envoyés du Seigneur, en fait. C'est ça, la clé. Elle les invite, non pas parce qu'ils parlent bien, mais parce qu'ils leur ont apporté quelque chose sur le plan spirituel, une dimension nouvelle, en tout cas. Et le texte, alors j'aime bien la finale là, de Luc... elle nous a forcés d'accepter. Et je pense qu'ils ont dû se battre. Parce que si elle les a forcés, c'est qu'il y avait résistance. Les résistances peuvent être culturelles. On est des hommes, on ne va pas envahir ta maison. Même si tu es converti, etc. Mais aussi des résistances de fierté, quand même. Nous, on bosse. On n'a pas besoin d'être hébergé. Mais ils vont comprendre par l'insistance donc de cette femme qu'il faut dire oui. Et peut-être même qu'on peut établir que finalement la première église de maison à Philippe, c'est chez elle. Ça va devenir le bastion du christianisme à Philippe. Et donc ça, peut-être qu'ils le comprennent en acceptant d'aller vivre là. Peut-être qu'ils comprennent que stratégiquement, il y a aussi quelque chose de bénéfique à accepter l'invitation.
Il y avait un grand besoin, autant qu'il soit là sur place, tu vois.
Oui, parce que les conversions allant, il faut continuer l'enseignement. Et il n'y a pas de lieu de culte. Il n'y a pas de synagogue. Et s'il pleut, on ne va pas aller enseigner à la rivière. Donc c'est chouette. On a trouvé une base à partir de laquelle travailler. Moi, j'en retire une chose de cette femme, en tout cas. Je la trouve extraordinaire, d'abord, dans tous ses comportements, dans toute son histoire. C'est vraiment époustouflant. Et puis, on découvre aussi là, en tout cas dans la finale, que c'est une femme extrêmement persuasive. Après tout, ils auraient pu dire, à cause du fait qu'ils sont juifs, non, pas d'hommes, etc. On aurait pu trouver toutes sortes d'artifices pour dire non. Mais cette femme sait faire les choses. Et c'est pas pour rien qu'elle est marchande, à mon avis. Elle sait vraiment manier les arguments, la parole, convaincre les gens, etc. Exceptionnelle, hein, franchement. Et je me réjouis personnellement de voir que la première église à Philippe va dépendre de cette conversion, en particulier. Voilà, après la suite, c'est au prochain numéro. Mais si vous avez l'une ou l'autre application, je ne sais pas quelle heure il est en fait. Bon, on a encore le temps. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais elles ont toutes trait au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. J'en ai pas énormément. Alors, je vais quand même vous en glisser une ou l'autre, mais ce qui m'a quand même surpris, c'est que quand on parle de l'Esprit-Saint, dans nos théologies d'aujourd'hui, occidentales, etc., modernes, c'est généralement pour souligner des actions positives de l'Esprit. L'Esprit fait ceci, l'Esprit fait cela, je parle en langue, etc. Voire même des actions grandioses. Hein. Voilà, des choses extraordinaires qui se passent, des guérisons miraculeuses, etc. Bon, mais il est quand même assez rare d'entendre témoigner de son opposition. Moi, ça m'a quand même frappé, quoi. Et donc, et c'est là qu'on voit la vraie liberté de l'esprit, d'ailleurs, c'est pourtant dans la Bible, en tout cas là, dans les Actes, par deux fois consécutivement, non, vous n'irez pas là, mais vous irez plutôt là où moi, je veux que vous alliez. Et reconnaissons alors que dans notre histoire personnelle, nous n'avons pas souvent souligné les oppositions de l'esprit dans nos vies. Peut-être même que nous n'en sommes pas réellement conscient. C'est-à-dire quand des portes se ferment, c'est peut-être parce que l'esprit souhaite que ce soit comme ça. Quand certains de nos projets ne se réalisent pas, alors que nous y avons travaillé, œuvré, etc., moi je pense qu'on ne doit pas être déçu. L'esprit sait ce qu'il fait. Je repense à la fermeture de Fléron, par exemple. Voilà. Au début, on pleurait tous, on trouvait ça moche, dur de fermer une église. Puis ça a donné plein d'autres choses, dont le groupe qu'on est ici, l'église à Blény, qui a gagné des gens, et des gens compétents, entre guillemets. Voilà. Moi, je crois qu'il faut vraiment bien arriver à distinguer dans notre vie quand est-ce que l'esprit change les cartes, donne un autre jeu, et que nous ne comprenons pas toujours cela. L'esprit, parfois, oui, nous empêche de réaliser des choses.
Souvent, on en est conscient, avec le recul.
Ah oui, a posteriori, peut-être.
Je comprends pourquoi, maintenant, je n'ai pas pu aller là.
Tandis que là, on sent bien qu'ils sont tellement à la guet, si vous voulez, le groupe, là. Ils savent que c'est l'esprit. Ce n'est pas a posteriori qu'ils te disent, non, là, ils sentent qu'ils ne doivent pas le faire, ou qu'il faut le faire, la traversée vers Néapolis, par exemple. Mais à contrario, c'est ma deuxième réflexion, est-ce qu'il nous arrive d'être pleinement convaincus par l'Esprit de devoir réaliser quelque chose pour Dieu ? Parce qu'on peut dire, oui, l'opposition, ok, mais parfois, même quand c'est très clair, il nous arrive de ne pas être au clair, ou de ne pas y obéir, quoi. Donc je me dis, là aussi, peut-être qu'on doit veiller à être davantage conscient du rôle, en tout cas de l'Esprit-Saint, dans ma propre vie. Pour pouvoir se dire, là, je suis en sécurité. Là, c'est vraiment un projet auquel Dieu concourt réellement, quoi. Et toujours dans la même veine, alors, peut-être une troisième réflexion, dans tous nos projets, notamment spirituels, hein, est-ce qu'on reste sensible et à l'écoute du Saint-Esprit, justement pour qu'il nous guide ? Parce que j'ai l'impression quand même que dans la mentalité occidentale, le christianisme occidental, on est trop sûr de nous. On fait des projets et on dit à Dieu, viens avec nous. Mais on n'est pas en train de suivre Dieu. Tu vois ? Moi, ça me choque parfois. Quand j'entends des gens élucubrer des projets incroyables, alors qu'on a un peu l'impression que c'est quand même eux qui tirent la charrette, bien plus que Dieu, tu peux te dire, ah oui, mais alors si ça pète après, il y a peut-être des raisons, si ça ne marche pas vraiment. Donc, en Église, et même dans la grande Église universelle, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute du Saint-Esprit ? Ou est-ce qu'on prend nos souhaits pour des réalités. Voilà. Et alors une dernière, mais qui n'a rien à voir avec l'Esprit Saint, mais avec l'Indie cette fois-ci. Est-ce qu'il vous arrive de vous laisser forcer par l'amour fraternel des autres ? Parce que je crois qu'on a aussi notre petit orgueil occidental. Hein. On a un peu de mal à être, déjà à être aimé, mais à être aidé, encore, c'est un autre niveau. J'imagine que quand on est secouru, parfois l'orgueil fait que on a du mal à accepter. Et pourtant, ça fait partie de la réalité de la communion. Donc, le côté amour fraternel avec des vraies démonstrations, pas des mots, mais des faits, des actions, c'est aussi important pour grandir, je pense. Voilà. Et donc, je suis content que nos amis, nos quatre amis de l'équipe missionnaire de Paul, aient accepté d'être forcés. Parce que ça nous aide aussi peut-être à apprendre que nous aussi, on peut parfois être forcés. Et on doit l'accepter comme un cadeau de cet amour fraternel dont Jésus est l'auteur. C'est pas l'autre. L'autre, il obéit à Jésus en faisant cela. D'accord ? Pour moi, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je n'ai rien trouvé d'autre. Un petit peu, quoi. Voilà, la prochaine fois, je vous inviterai. C'était très difficile de décider quoi faire la prochaine fois parce que le texte est difficilement divisible. Si je divise, je tourne sur des toutes petites sections de quelques versets, et puis on n'aurait pas, on va s'embêter pendant la soirée. Donc finalement, j'ai opté pour que nous couvrions ensemble les versets 16 à 24 du chapitre 16. C'est-à-dire, tout se passe à Philippe, et c'est l'histoire de l'arrestation de Paul et Silas, et de leur emprisonnement, et de ce que ça va générer. Donc on voit de nouveau... l'esprit les a conduits jusque-là, mais c'est pour être en prison. Après quelques conversions, paf ! Arrêtez. Mais ce sera un emprisonnement utile. D'où, voilà, l'esprit continue à bien diriger les choses assez incroyablement, quoi. Et puis je me suis dit aussi que, mais ça je vous projette dans l'avenir, vous vous rappelez, le Macédonien, il dit « Passez, venez ici en Macédoine et secourez-nous ». Mais finalement, Paul et Silas vont aller bien au-delà, conduits par l'Esprit. Ils vont descendre depuis la Macédoine jusqu'en Grèce. Et donc, le voyage sera un voyage incroyable, quoi. Ça veut dire que tout ce qui était accessible aux premiers abords du continent européen va être évangélisé en l'espace de ce voyage, et dont des grandes villes. Et après, on s'étonne que ça se soit propagé, mais c'est assez incroyable, quoi. Donc voilà, en fait, ils n'ont pas pris un ticket aller-retour Troas-Néapolis et Néapolis-Troas, mais ils vont continuer à suivre l'Esprit dans tout ce que l'Esprit leur permettra de faire. Pour finalement rentrer après, évidemment, fin du voyage, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a passionné, mais moi, ça m'a vraiment intéressé. Et cette femme Lydie, je ne suis pas prête de l'oublier. Vraiment, c'est très marquant, quoi.